Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM Lille Info, le magazine de Radio Campus consacré à l'Université Lille 1. Voilà, Lille Info, aujourd'hui consacrée à la fête de la science 2011, une fête un peu particulière puisqu'on est dans la commémoration de la chimie, avec l'année de la chimie, et donc c'est tout naturellement que nous avons invité M. André Mortreux, qui est chercheur au laboratoire de catalyse de Lille. Bonjour M. Mortreux.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Voilà, donc on va présenter aujourd'hui le village des sciences de la métropole lilloise, donc le village des chimistes, qui se prépare actuellement, puisque le 13 sera ouvert jusqu'au 16 octobre, dans le cadre de cette année internationale de la chimie, et ça se passe avenue du peuple belge à Lille. Donc vous êtes le concepteur, l'organisateur de cet événement?
Pas seulement, bien évidemment. Disons qu'à partir du moment où je suis responsable local, régional de l'année internationale de la chimie, j'ai tenu à ce que, bien sûr, la chimie soit mise à l'honneur lors de la fête de la science cette année. Et j'ai été suivi en cela par le presse en particulier, qui avait la volonté également de faire donc un village des sciences dans la métropole lilloise. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, bien sûr, mettre en place, plus que d'habitude, des stands qui sont consacrés à la chimie.
Donc chaque année, la science se fête à cette époque. Cette année, c'est quelque chose qui prend une autre dimension.
Oui, justement, par rapport au fait que justement le presse a tenu à ce qu'il y ait quelque chose qui rassemble les chercheurs, des universités, en particulier lilloises. Et dans ce village, qui est en fait un chapiteau de 600 mètres carrés, on trouvera non seulement bien sûr des chercheurs de Lille 1, mais également de l'INSERM, c'est-à-dire de Lille 2 et de l'Institut Pasteur.
Quand vous dites on trouvera des chercheurs, ça veut dire qu'on pourra vraiment les rencontrer en vrai?
On pourra les rencontrer et discuter donc des manips qu'ils peuvent faire, et donc on va en discuter peut-être maintenant. Donc sachant que bon, ce sont des personnes qui sont non seulement des chercheurs, mais aussi des jeunes, en ce sens que cette année particulièrement, a été mis en place dans le cadre du PRESS un module transmission des connaissances scientifiques, faisant en sorte que des thésards sont en fait amenés à faire donc un module particulier, transmission des connaissances scientifiques, et de ce fait, eh bien, il y a pas mal de thésards qui sont impliqués et qui vont faire des manipulations devant vous.
Voilà, donc aujourd'hui on est le 12, le 13 c'est demain.
Oui, effectivement. Donc, ils sont actuellement dans le chapiteau en train de préparer tout cela.
Voilà.
De façon à ce que demain matin, donc dès 9h30, ils soient prêts. Sachant que demain et après-demain, c'est essentiellement consacré aux scolaires. Nous avons donc fait une programmation. On a lancé une opération donc via le rectorat en particulier auprès des établissements scolaires. Et il y aura donc des jeunes et moins jeunes qui passeront. Donc à hauteur de 120 personnes de manière récurrente dans le chapiteau, ce qui fait que globalement, je pense que quelque part, il y aura 800 écoliers qui passeront donc jeudi et vendredi.
Donc on se retrouve dans quelques instants pour la présentation des animations, notamment celles ouvertes au grand public.
Thank you.
Voilà, donc Monsieur Mortreux, on peut dire que la chimie nous environne et que dans notre univers quotidien, on retrouve sinon de la chimie, mais des effets de la chimie et puis des choses qui sont du domaine courant, mais qu'on a du mal à analyser. Mais pourtant, je veux dire, quand on parle de boissons mousseuses, de champagne, d'autres choses comme ça, c'est quand même de la chimie.
Oui, tout à fait. Bon, même s'il y a de la biochimie quelque part à ce niveau-là. Et à cet égard, donc, je convie les personnes donc, qui le souhaiteraient, qui le pourraient, de venir ce soir à l'espace culture, puisqu'il va y avoir donc une conférence qui sera donnée dans le cadre de l'année internationale de la chimie et qui est intitulée « Voyage au cœur d'une bulle de champagne » à 18h30, donc à l'espace culture de Lille.
Ce sera suivi d'une démonstration.
Ça, bon, les gens le verront.
Donc n'hésitez pas ce soir, c'est à ne pas manquer. Donc parmi ces animations, il y a des stands donc qui présentent des secteurs un peu particuliers de la chimie. Hein. On peut parler, donc on a parlé de la mousse en fait par exemple, la chimie itinérante.
Oui, en fait chimie itinérante c'est une action qui est portée par en particulier Christelle Pirlo et qui perdure depuis maintenant une douzaine d'années. Ça a été mis en place en 1998, juste avant la première année internationale de la chimie, et qui vise à ce que finalement des étudiants en thèse d'une part, et également des chercheurs bien sûr, chercheurs, enseignants-chercheurs, puissent aller vers les lycées et collèges pour montrer un peu donc des expériences de chimie, de façon à attirer les jeunes vers les sciences.
Alors ce problème de l'attraction de la science d'une manière générale vis-à-vis des jeunes, il y a un problème de recrutement ?
Disons que ça se stabilise. Il y a eu un problème effectivement il y a quelques temps, mais à force justement peut-être de faire ces actions, je pense que quelque part il y a un plus donc certain. Et on verra donc, dans le chapiteau, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui seront quelque part un petit peu interpellés par le fait qu'on peut faire des expériences sans grand danger bien évidemment, et peut-être par ce biais les attirer vers ou la chimie ou la physique bien sûr.
Mmh. Quand j'étais petit, on va dire à 10-11 ans, j'étais passionné par la chimie, et notamment avec une petite mallette qui s'appelait le petit chimiste.
Oui.
C'est vraiment un peu magique d'un côté, la chimie, et ça fait rêver aussi.
Oui, quelque part, effectivement, il y a une part de magique, mais c'est quand même de la chimie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réaction chimique qui s'opère. Et bon, hier nous avions une émission aussi à la télé montrant justement qu'il y avait des réactions chimiques qui pouvaient être très jolies à voir. Et l'important pour nous, ce qui nous concerne bien sûr, c'est de comprendre ce qui se passe en tant que chercheur au sein même des réactions.
Pour comprendre ces mécanismes au-delà de l'aspect visuel et des phénomènes qu'on peut voir, hein, physiques, qui sont démontrables, à partir de quand on peut vraiment comprendre les systèmes, les lois de la chimie ?
Je pense que bon, il faut apprendre avant de comprendre. C'est certain qu'il faut quand même avoir un certain, comme on dit en anglais, un background par rapport donc à ce qui est donc exposé, ce qui est donc ce qu'on a devant les yeux. Mais pour vraiment comprendre, je pense quand même qu'il faut être après le bac. Bien comprendre les phénomènes intimes qui peuvent se produire.
C'est vrai que pas mal d'expériences de magie d'autrefois, les illusions qui ont parfois séduit les hommes, sont au départ des expériences chimiques, hein, transformer l'eau en vin ou l'or, ou je ne sais pas quoi, en or,
mais
c'est quand même...
Là, c'est de l'alchimie, dont vous parlez.
Mais c'est quand même la base de la chimie.
Je ne pense pas, non.
Pas du tout.
Sincèrement, non.
Rien à voir.
Non, rien à voir.
Est-ce qu'il y a encore des chimistes qui sont aussi parfois alchimistes? Il y a des gens qui sont un peu dans les deux?
Je ne pense pas actuellement, enfin je ne le connais pas personnellement. En pratique, on commence quand même à comprendre les secrets intimes de la matière et en particulier donc des réactions qui se font donc au sein d'une réaction chimique, donc des mécanismes. Et par là même, bon, je ne pense pas que quelqu'un ait maintenant l'intention d'aller plus loin et de revenir un peu donc au Moyen-Âge, quoi.
Bon. Quand on parle de chimie, il faut associer ça à la physique aussi?
Disons que on peut associer effectivement la chimie à la physique, mais vous allez avoir bien sûr au niveau du chapiteau effectivement des choses qui seront relatives donc à la supraconductivité, dont c'est d'ailleurs le centenaire cette année, Le train donc à lévitation qui sera présent. Il y aura aussi donc quelque chose sur l'IRM, quelque chose également donc sur le magnétisme. Mais tout ça quelque part, eh bien, provient du fait que les chimistes ont été capables de faire les matériaux correspondants. C'est-à-dire que la chimie est à la base de tout ça. Alors bien évidemment, c'est pas visible en tant que chimie puisque c'est du magnétisme. C'est donc le train qui se lève, d'accord. Mais nécessairement à la base. Il y a eu des chimistes qui sont intervenus, des chimistes du solide en l'occurrence, pour pouvoir donc faire en sorte que l'on puisse avoir ce phénomène.
Mmh. Alors, quelque chose qui est plus évident dans le domaine de la chimie, c'est la transformation des modes de carburant, on va dire,
oui.
et donc passer de l'or noir, qui est pour l'instant encore bien répandu et nécessaire, à d'autres systèmes, notamment l'or vert.
Oui, en fait, c'est un titre peut-être un peu ronflant, c'est vrai, mais quelque part, c'est un comeback. En ce sens que, bon, dans les années 1900, donc j'ai retrouvé des documents en particulier donc dans l'illustration de 1941 d'ailleurs, disant quelque part que nos pères n'avaient pas tort. Ces pères en question donc étaient de la génération 1900 par lesquels l'éthanol était le rival de l'essence à l'époque. Mmh. Et il y a même eu donc une compétition automobile qui a été mise en place Paris-Roubaix, mais automobile, par les betteraviers du Nord pour pouvoir donc valoriser leur éthanol. Alors cet éthanol actuellement effectivement revient un peu au goût du jour. Il est clair que dans nos pays européens, faire de l'éthanol, ça peut se faire en particulier à partir de la betterave, ce qui a été fait donc régulièrement et qui est encore bien sûr ici dans notre pays betteravier, hein, en particulier dans le nord de la France. Par contre, il est évident que c'est pas avec ça qu'on sera capable de faire mouvoir toutes les automobiles du parc français. En revanche, nous savons qu'au Brésil, là, la canne à sucre est également à même de pouvoir faire du saccharose et par conséquent donc de l'éthanol par derrière. Et la productivité d'une canne à sucre n'a rien à voir avec les betteraves sucrières, même si donc on est à 19% cette année. En fait, donc c'est quasiment doublé, ce qui fait que là-bas, au Brésil, certaines voitures roulent bien sûr avec un mélange éthanol-essence.
Voilà donc pour les véhicules, sachant que l'éthanol, l'alcool plutôt, est utilisé aussi par les hommes directement, hein, par voie orale on va dire, et que l'alcool c'est aussi du sucre, hein, et qu'il faut se méfier également des effets, je veux dire, sucrants de l'alcool, puisque ça a tendance à renforcer le diabète.
Hein. Tout à fait, et donc justement dans le chapiteau, il y aura un stand qui sera dévolu à l'étude du diabète, pour donc comment doser le glucose et les effets, etc.
Donc ça se mesure avec un glucomètre.
Avec un glucomètre, tout à fait. Oui. Mm-hmm. Donc ça sera présenté par des personnes donc de l'INSERM.
C'est vrai que en France, on consomme pas mal de sucre, hein, sous diverses formes. Il y a des intérêts économiques en jeu aussi importants, hein, le sucre. Derrière, il y a des industries qui poussent pour qu'on en consomme. Hein. Et donc, au-delà des gâteaux, etc., des semaines du goût et autres, on est amené à être sensibilisé au goût. Donc, le goût, le sucre, c'est quand même, ça fait partie du goût sucré, ça existe, ça fait partie de la panoplie.
Bien sûr, mais bon, d'ailleurs, bon, il y a maintenant donc, ce qu'on appelle des sucres salés. En pratique, donc, l'aspartame est quelque chose qui sucre également, mais qui n'a rien à voir sur le plan, bien sûr, des effets par rapport au diabète. Ouais. Je dois dire par rapport au diabète que je connais des gens donc au Maroc en particulier, là-bas il y a de la betterave parce qu'il y a pas mal aussi donc d'eau qui vient de l'Atlas. Ils ont donc des champs de betterave assez conséquents et quand on regarde un petit peu les vieilles personnes du Maroc, on voit beaucoup de personnes atteintes de cécité parce que en prenant leur thé, ils mettent énormément de sucre bien sûr dans ce liquide.
On pourrait dire aussi que la canne à sucre a de gros effets dans les régions concernées.
Il faut voir, à ce moment-là, c'est peut-être le rhum.
Oui, tout à fait. Ça peut être les deux.
Bien sûr.
Bon, on essaiera d'y voir plus clair un jour. Donc, sinon, là, on a parlé des produits, des substances. On pourrait parler aussi de l'infiniment, enfin, du petit, très petit, des microbes.
Oui, là c'est un sujet, donc de quoi parlez-vous au niveau des microbes?
Des démonstrations microbiologie.
Ah, d'accord. Donc là c'est effectivement donc, quelque chose qui sera proposé, je pense, par
l'Institut Pasteur,
effectivement. Mm-hmm. Donc d'après ce que je peux lire en tout cas, Eh bien, donc, ce sera à voir comment donc, les microbes interviennent dans la flore intestinale. Donc, c'est pour montrer un peu aussi, donc, sur le plan hygiène, comment les gens doivent se comporter.
D'accord. Mmh. Et après, donc, la chimie a une influence forcément sur l'environnement et sur la santé. Oui. Donc, comment analyser et même anticiper cet impact. Moi, je pense que ce sera aussi un objectif qui sera dans le cadre d'un stand porté par l'Institut Pasteur de Lille. On peut parler maintenant des grands noms de la chimie. Il y a eu dans notre région des grands noms de la chimie, au-delà de Pasteur qu'on connaît bien.
On connaît bien Pasteur, bien sûr. Il y a eu Sukelman. Il y a donc d'autres personnes donc, qui ont même eu la médaille d'or du CNRS qui seront aussi donc, dans l'exposition sur ce qu'on a appelé les grands chimistes du Nord. Donc là encore, non seulement on se sera présenté sous le chapiteau, il y aura donc des posters à cet effet, mais surtout il y aura donc à la fin de l'année, à partir du 21 novembre, une exposition qui leur sera consacrée ici même, donc à l'espace culture, et qui est menée par Antoine Matrion, et on aura bien sûr l'occasion à ce moment-là d'en discuter beaucoup plus.
Alors Antoine Matrion, que nous avons reçu il y a relativement peu de temps, puisqu'il y a eu une exposition sur les objets qui ont servi la science ici, dans les universités lilloises au fil des siècles. Là, on va le retrouver pour ce projet de galerie de grands chimistes. Ça se passera donc à Lille ?
À Lille, l'espace culture, tout à fait. Et ce sera prolongé, je pense, sur l'île 3 par derrière.
D'accord.
Donc pour l'année 2012, ce fait.
Donc une exposition, on va dire, destinée à tourner.
Au moins, en tout cas, entre les deux universités, puisque c'est organisé dans le cadre du PRESS.
Est-ce qu'on peut imaginer des développements au-delà de Lille?
Je pense qu'il faut le souhaiter, en fait, globalement, parce que, quelque part, on constate qu'il y a quand même eu une pépinière de personnages qui sont passés ici à Lille, et qui ensuite sont passés, certes, vers d'autres grandes villes, telles que Paris. Je pense en particulier aux deux médailles d'or du CNRS, dont j'ai parlé la semaine dernière, au niveau d'une conférence qui a été faite par Gérard Ferré, médaille d'or du CNRS 2010. Et de fait, je pense que c'est intéressant effectivement de signaler ce phénomène qui veut que des Lillois, finalement, sont partis certes vers Strasbourg, vers Paris, mais ont été de grands noms, d'une manière générale.
Mortreux, on va pour le grand public préciser les horaires et les lieux. Donc on a parlé de l'avenue du peuple belge qui est quand même une grande avenue. On va peut-être préciser le point où ça se situe de façon plus précise.
De façon plus précise, si vous connaissez la place Louise de Bétigny, en fait c'est juste à côté de la place de Louise de Bétigny. Il y a un parking juste en dessous en pratique. Donc on s'est positionné juste au coin là, en fait au bout de l'avenue du peuple belge, mais carrément donc dans le centre-ville. C'est un chapiteau de 600 mètres carrés, 20 mètres sur 30, qui a été positionné hier matin.
D'accord. Donc, pour le grand public, l'accueil se fait quand?
Le grand public, a priori, sera volontiers accueilli plutôt vendredi et samedi. Vers 9h30, nous serons bien sûr à pied d'œuvre, jusqu'à 18h30, même s'il le fallait, on déborderait bien évidemment.
D'accord. Là, on est dans le cadre d'une année particulière, l'année de la chimie. Est-ce que vous ferait un bilan du succès de cette manifestation pour l'année prochaine, peut-être au-delà, ou préciser les choses?
Je pense que c'est la première fois que le PRESS organise ceci, donc de ce fait-là, je pense que ça devrait perdurer. Ce que je dois signaler, et ce qui n'a pas encore été dit ici, c'est que en fait, il y aura aussi un stand qui sera donc mis en place par l'INPS, la police scientifique. Donc il y aura une scène de crime, d'une part, et donc autour, le moyen de voir dans quelle mesure on peut résoudre l'énigme qui correspond à ce crime.
C'est vrai que de plus en plus, la recherche scientifique est liée à des techniques, des technologies où l'analyse, notamment chimique, entre en jeu.
Tout à fait, et donc c'est ce dont on aura l'occasion de discuter, de voir, sachant que là encore, ce sont des étudiants de Lille 1 et également de l'Université du Littoral qui sont intervenus avec le chargé de communication de la police scientifique de Lille.
ces étudiants qui sont donc à pied d'œuvre aujourd'hui et pour les jours qui viennent, ils ont quel niveau au départ? Ils interviennent à partir de quel moment?
Bien, il y aura en fait deux styles d'étudiants. Là, ce dont je parlais, ce sont des étudiants qui sont en thèse, et qui donc ont une formation en plus de ce qu'ils font en termes de recherche. Mais il y aura aussi des étudiants en master en particulier qui montreront en fait la formulation. Donc ce sont des étudiants qui sont au niveau, disons, juste avant la thèse et qui ont été donc conduits, je dirais, par leur maître pour pouvoir donc assurer des démonstrations, en particulier dans le domaine des mousses, on parlait tout à l'heure, et de la formulation. Comment fait-on un dentifrice? Comment se fait-il que ce soit quelque chose qui soit plus ou moins mou et pas trop dur, etc.
Je pense que c'est l'occasion aussi d'un échange avec ces étudiants, peut-être pour savoir comment ça se passe, les études, notamment à Lille.
Il y aura aussi le CNRS qui sera présent et qui pourra montrer aussi ce qu'est la carrière d'un chercheur, le cas échéant. Et bien sûr, ce sera l'occasion aussi pour les jeunes de discuter avec des moins jeunes, certes, mais qui sont encore dans le circuit, universitaire, pour savoir comment les gens sont arrivés là et ce qu'ils souhaitent faire par la suite.
Peut-être aussi poser des questions qu'on a comme ça dans notre univers quotidien. On dit, tiens, ça fait ça, pourquoi? On peut peut-être interroger un chercheur.
Pourquoi donc?
Une expérience, un effet d'un événement qui se passe et on n'en a pas l'explication rationnelle, on peut peut-être interroger les scientifiques.
C'est justement là l'objet, en fait. À partir du moment où ce sont des personnes qui sont en thèse, a priori, elles seront à même d'expliquer le pourquoi du comment. Entre autres, donc, si vous faites une démonstration dans laquelle il y a une réaction qui est, ne serait-ce que pas forcément explosive, mais qui mousse, comment se fait-il que ça mousse? Ce sont des réponses, effectivement, qui pourront être apportées par les chercheurs qui présenteront ces expériences.
Alors, si on a donné envie aux gens de s'intéresser à la chimie, on peut peut-être aussi parler des risques de faire des manipulations avec n'importe quoi. On met le feu à quelque chose et il se passe des choses bizarres, ou même mélanger des produits qui ont des interactions parfois dangereuses.
Là, en fait, effectivement, il faut mettre en garde les personnes de ne pas faire n'importe quoi. Le problème, c'est que, malgré tout, à partir du moment où justement les gens ne connaissent pas, il y a toujours un risque, c'est évident. Nos risques à nous, bien sûr, ne sont pas mesurés. Ils sont complètement donc annihilés, en ce sens que les manipulations que nous faisons sont bien sûr bien rodées.
On peut aussi dire aux parents qu'il faut qu'ils veillent un peu à ce que leurs enfants font en termes d'expérience.
Si tant est qu'ils aient la possibilité d'en faire chez eux, bien sûr. Ouais. Mais justement, Gérard Ferret expliquait lors de sa conférence, celui qui a eu la médaille d'or du CNRS expliquait lors de sa conférence qu'il faisait des manips chez lui, donc dans son garage.
Ben oui.
Tout jeune, tout môme, bon, bien sûr.
Donc voilà, un minimum. On parle des dangers d'Internet, mais il y a aussi des dangers liés à l'expérimentation.
Oui.
Voilà, sachant que les enfants aiment bien jouer.
C'est sûr,
il faut trouver les limites.
Voilà, tout à fait.
Bien, monsieur Mortreux, donc on se donne rendez-vous, alors on va dire pour le grand public, on va rappeler les horaires. Donc avenue du Peuple Belge, on a dit place Louise de Bétigny, okay. Et c'est vendredi et samedi.
De 9h30 à 18h30.
Voilà.
Voilà.
Et ramener un esprit disponible pour pouvoir dialoguer.
On est là pour ça.
C'est ça.
Et donc, je dis bienvenue dans le chapiteau.
Merci, monsieur Mortreux. À très bientôt. Bonne fête.
Merci.